Studio, troisième partie. Chapitre 1. Les épanchines, ou du moins les plus réfléchis d'entre eux, étaient désolés de ne point ressembler au reste de la société. Sans pleinement se rendre compte du fait, ils ne laissaient pas de soupçonner parfois que chez eux les choses n'allaient pas comme ailleurs. Tout le monde menait une existence paisible et uniforme, la leur était continuellement chaotée. Tout le monde roulait sur les rails, eux déraillaient à chaque instant. Dans toutes les maisons régnait la timidité voulue par les bienséances, chez eux on ne connaissait pas cela. Peut-être, à la vérité, Elisabeth Prokofievna était-elle la seule à se faire ces observations chagrines. Les demoiselles, qui ne manquaient pas d'ailleurs de pénétration ni de causticité, étaient encore jeunes. Le général avait l'esprit assez perspicace, bien que peu délié, mais, dans les cas embarrassants, il se contentait de dire « Hum » et, au demeurant, se reposait de tout sur sa femme. Par conséquent, à elle aussi incombait la responsabilité. Et ce n'était pas que ces gens-là se distinguassent par quelque initiative particulière, ni que leurs déraillements eussent pour cause une tendance consciente à l'originalité, ce qui aurait été fort inconvenant. Oh non ! Il n'y avait ici rien de prémédité. Mais, au bout du compte, la famille Epanchine, bien que fort considérée, n'était pas ce que doit être une famille entourée de la considération publique. Depuis quelque temps, Elisabeth Prokofievna s'était mis dans la tête que tout le mal venait exclusivement d'elle et de son malheureux caractère. Cette conviction ajoutait encore à son chagrin. Sans cesse, elle maudissait sa stupide, son inconvenante excentricité. Toujours inquiète, toujours sur le qui-vive, elle perdait constamment la carte et se trouvait fort embarrassée dans les rencontres les plus ordinaires de la vie. Nous avons dit, au commencement de notre récit, que les Epanchines jouissaient de l'estime générale. Ivan Fédorovitch lui-même, malgré son obscure origine, était reçu partout avec respect. Il méritait cela d'abord à cause de sa fortune et de sa position assez élevée. Ensuite, parce qu'il était un homme tout à fait comme il faut, quoique borné. Une certaine pesanteur d'esprit semble du reste une qualité presque indispensable, sinon à tout personnage public, du moins à tout financier sérieux. En outre, le général avait des manières convenables, il était modeste, savait se taire, et en même temps ne se laissait pas marcher sur le pied. Enfin, chose plus importante encore, il avait une haute protection. Quant à Elisabeth Prokofievna, comme le lecteur le sait déjà, elle sortait d'une famille aristocratique. À la vérité, on regarde plus chez nous aux relations qu'à la naissance, mais elle avait aussi des relations. Elle était aimée et estimée de gens dont l'exemple faisait loi dans la société. Il est à peine besoin de dire que ses chagrins de famille n'avaient aucun fondement, ou du moins que son imagination les grossissait d'une façon ridicule. Mais si vous avez une verrue sur le nez ou sur le front, vous vous figurez que votre verrue attire l'attention générale, que tout le monde n'est occupé qu'à s'en moquer, et qu'on vous condamne à cause de cela. Eussiez-vous néanmoins découvert l'Amérique ? Assurément, Elisabeth Prokofievna passait dans la société pour une originale. Mais elle n'en était pas moins estimée, parce qu'on la jugeait ainsi. Or, la pauvre femme avait fini par croire qu'on n'avait pas d'estime pour elle. C'était là le malheur. En considérant ses filles, elle se disait avec douleur qu'elle nuisait à leur avenir, qu'elle avait un caractère ridicule, inconvenant, insupportable. Naturellement, la faute en était à son entourage. Aussi, du matin au soir, querellait-elle son mari et ses filles qu'elle aimait pourtant jusqu'à l'oubli d'elle-même, presque jusqu'à la passion. Ce qui la désolait, surtout, c'était l'idée que ses filles devenaient originales, tout comme elle, et qu'il n'y avait pas, qu'il ne devait pas y avoir de pareilles demoiselles au monde. « Ce sont des nihilistes qui poussent, voilà tout !» se répétait-elle à chaque instant. Depuis un an, cette pensée tourmentait de plus en plus Elisabeth Prokofievna. « D'abord, pourquoi ne se marie-t-elle pas ?» se demandait-elle sans cesse. Pour faire de la peine à leur mère, elles n'ont que ce but dans la vie. Il ne peut en être autrement, car tout cela, ce sont des idées nouvelles. Tout cela, c'est la maudite question des femmes. Est-ce qu'Aglaé, il y a 6 mois, n'a pas imaginé de couper sa magnifique chevelure ? Seigneur, moi-même, dans mon temps, je n'avais pas d'aussi beaux cheveux. Elle avait déjà les ciseaux en main. J'ai dû me mettre à genoux pour la faire renoncer à cette fantaisie. Elle, soit, j'admets qu'elle ait agi par méchanceté, pour chagriner sa mère, parce que c'est une fille méchante, capricieuse, une enfant gâtée, mais surtout méchante, méchante, méchante. Mais est-ce que cette grosse Alexandra ne voulait pas aussi se raser la tête? Et celle-là, non par caprice, ni par méchanceté, mais par conviction, comme une sotte, parce qu'Aglaé lui avait fait croire qu'elle dormirait mieux sans cheveux et qu'elle n'aurait plus de migraine. Mais combien de parties, combien se sont présentées pour elle depuis 5 ans? Dans le nombre, il y en avait certainement de beaux, de très beaux même. Qu'attendent-elles donc? Pourquoi ne se marient-elles pas? Uniquement pour vexer leur mère, elles n'ont pas d'autre raison, absolument aucune autre. Elisabeth Prokofievna éprouva quelque soulagement quand elle put se dire que du moins une de ses filles, Adélaïde, allait enfin être établie. « Ce sera toujours un débarras pour moi, » déclarait-elle lorsqu'il lui arrivait de manifester tout haut ses sentiments. Dans le fort intérieur, elle se servait d'expressions beaucoup plus tendres. Et comme toute l'affaire s'était arrangée heureusement, convenablement, dans le monde même, on n'en parlait que sur un ton hautement approbateur. Le fiancé était un homme comme il faut, un homme connu, un prince. Il avait de la fortune, et en outre, il plaisait à sa future. Qu'aurait-on pu désirer de mieux? Mais Elisabeth Prokofievna avait toujours été moins inquiète de sa seconde fille que des 2 autres, quoique les goûts artistiques d'Adélaïde ne fussent pas sans lui causer parfois un peu d'appréhension. En revanche, elle a un caractère gai, et beaucoup de bon sens. Avec cela, une fille ne se perd pas, se disait en fin de compte la générale, et cette pensée la rassurait. C'était l'avenir d'Aglaé qui lui donnait le plus de soucis. Au sujet de l'aînée, Alexandra, Elisabeth Prokofievna ne savait si elle devait ou non s'inquiéter. Quelquefois, il lui semblait que c'en était fait de cette fille. Elle avait 25 ans, donc elle était destinée à coiffer Sainte-Catherine. Et avec une beauté pareille! La malheureuse mère passait les nuits à pleurer, pendant que la cause de ses larmes dormait du sommeil le plus tranquille. Mais qu'est-ce qu'elle est? Une nihiliste ou simplement une sotte? Elisabeth Prokofievna savait fort bien, du reste, que cette dernière qualification n'était pas à sa place ici. Elle tenait en haute estime le jugement d'Alexandra Ivanovna et lui demandait volontiers conseil. Mais que sa fille fût une poule mouillée, elle n'en doutait pas du tout. Elle est si tranquille que rien ne peut l'émouvoir. Du reste, les poules mouillées elles-mêmes ne sont pas tranquilles. Fi, je n'y comprends rien. Alexandra Ivanovna inspirait à Elisabeth Prokofievna une sorte de compassion inexplicable que la générale n'éprouvait pas au même degré pour Aglaé, quoique celle-ci fût son idole. Mais les mouvements d'humeur, par où se manifestait surtout la sollicitude maternelle, les épithètes comme celle de « poule mouillée », etc., ne provoquaient que l'hilarité d'Alexandra. Parfois, les choses les plus insignifiantes exaspéraient Elisabeth Prokofievna, la mettait hors d'elle-même. Par exemple, Alexandra Ivanovna aimait à dormir fort longtemps et d'ordinaire elle faisait beaucoup de rêves. Mais il se distinguait toujours par une niaiserie, une innocence peu commune. Un enfant de 7 ans n'en aurait pas fait d'autre. Eh bien, l'innocence même de ses songes irritait la maman. Une fois, la jeune fille vit en rêve 9 poules. Et à ce propos, une querelle sérieuse eut lieu entre elle et sa mère. Pourquoi ? Il serait difficile de le dire. Une autre fois, la seule, il est vrai, elle eut un songe un peu original. Elle vit un moine dans une chambre obscure où elle avait peur de pénétrer. Adélaïde et Aglaé s'en furent avec de grands éclats de rire raconter triomphalement ce songe à Elisabeth Prokofievna. La maman se fâcha et traita ses 3 filles de sottes. Elle est tranquille comme une imbécile. C'est une véritable poule mouillée. Rien ne peut l'émouvoir. Et pourtant elle est triste. Il y a des jours où elle fait vraiment peine à voir. Pourquoi est-elle triste? Pourquoi? Parfois la générale posait même cette question à son mari, et cela fébrilement, selon son habitude, d'un ton de menace, comme quelqu'un qui exige une réponse immédiate. Ivan Fédorovitch fronçait les sourcils, haussait les épaules, et à la fin exprimait son opinion en écartant les bras. « Il lui faut un mari !» Elisabeth Prokofievna éclatait comme une bombe. « Dieu veuille seulement qu'il n'ait pas vos sentiments et vos idées, Ivan Fédorovitch. Qu'il ne soit pas aussi grossier que vous, Ivan Fédorovitch. » Le général se sauvait aussitôt, et Elisabeth Prokofievna, après avoir éclaté, se calmait. Bien entendu, le soir même, elle se montrait extraordinairement prévenante, douce, affable, respectueuse à l'égard d'Ivan Fédorovitch, de son grossier Ivan Fédorovitch, de son bon, de son cher, de son adoré Ivan Fédorovitch. Car elle n'avait jamais cessé d'aimer son Ivan Fédorovitch. Elle était même amoureuse de lui, il le savait très bien, et de son côté, il estimait infiniment son Elisabeth Prokofievna. Mais le principal tourment de la mère, celui de toutes les heures, c'était Aglaé. « Elle est tout à fait comme moi, c'est mon portrait sous tous les rapports, » se disait la générale. « Un despotique, un vilain petit diable, une nihiliste, une originale, insensée, méchante, méchante, méchante. Oh, Seigneur, comme elle sera malheureuse !» Toutefois, comme nous l'avons dit, l'assurance qu'Adélaïde allait bientôt se marier fut un baume pour Elisabeth Prokofievna. Durant près d'un mois, elle oublia ses inquiétudes. Le prochain mariage d'Adélaïde fut cause qu'on se mit aussi à parler d'Aglaé dans le monde. Et la jeune fille se tenait si bien partout, elle avait des façons si aisées, une attitude si intelligente, un charme si vainqueur. Sa fierté même semblait être une grâce de plus. Depuis un mois, elle était si polie et si aimable avec sa mère. À la vérité, il faut se donner le temps de bien connaître cette Eugène Pavlovitch. Oh oui, il faut l'étudier à fond. D'ailleurs, Aglaé ne paraît pas le voir beaucoup plus volontiers que les autres. Mais quel heureux changement tout d'un coup dans son caractère! Et comme elle est belle, mon Dieu, comme elle est belle! Elle embellit tous les jours. Et voilà. Et voilà. Ce vilain principicule, ce misérable petit idiot, n'avait eu qu'à se montrer, et de nouveau tout était bouleversé, tout était sans dessus-dessous dans la maison. Et pourtant, qu'est-ce qui était arrivé? Pour d'autres, rien ne serait arrivé, assurément. Mais Elisabeth Prokofievna avait ceci de particulier, que dans les circonstances les plus simples de la vie, elle savait toujours découvrir quelque chose qui l'effrayait parfois au point de la rendre malade. Qu'on juge de ce qu'elle dut éprouver quand, au milieu de toutes ses inquiétudes chimériques, elle vit soudain se produire un incident qui avait une gravité réelle et valait la peine qu'on s'en préoccupât sérieusement. Et comment a-t-on osé, m'écrire cette maudite lettre anonyme où l'on me dit que cette créature est en relation avec Aglaé? pensait la générale tout le long de la route, tandis qu'elle entraînait le prince à sa suite. Lorsqu'elle fut arrivée chez elle et qu'elle eut fait asseoir Muishkin devant la table ronde autour de laquelle était réunie toute la famille, Elisabeth Prokofievna retomba dans ses réflexions. « Comment a-t-on même osé penser à cela ? Mais je mourrais de honte si j'en croyais un traître mot ou si je montrais cette lettre à Aglaé. Comme on se moque de nous, des Epanchines ! Et Ivan Fedorovitch est la cause de tout, de tout ! À vous la responsabilité de tout cela, Ivan Fedorovitch ! Ah, pourquoi ne nous sommes-nous pas plutôt transportés à Elagin ? J'avais proposé d'y aller. C'est peut-être Varka qui a écrit la lettre. Je m'en doute. Ou peut-être... Tout cela, c'est la faute d'Ivan Fedorovitch. Cette créature a imaginé cela pour se moquer de lui. En souvenir d'une ancienne liaison, elle a voulu le tourner en ridicule, tout comme elle l'avait déjà bafoué quand il lui a offert des perles. Mais, au bout du compte, nous sommes mêlés à cette affaire. Vos filles y sont mêlées, Ivan Fedorovitch. Des demoiselles de la meilleure société, des jeunes personnes à marier. Elles se trouvaient là. Elles sont restées là, elles ont tout entendu. Elles ont été mêlées de même à l'histoire avec les gamins. Réjouissez-vous, elles étaient là aussi, et elles ont tout entendu. Je ne pardonne pas à ce petit prince. Jamais je ne lui pardonnerai. Et pourquoi, depuis 3 jours, Aglaé a-t-elle les nerfs agités? Pourquoi s'est-elle presque brouillée avec ses sœurs? Même avec Alexandra, à qui elle baisait toujours les mains comme à sa mère tant elle la respectait. Pourquoi, depuis 3 jours, est-elle une énigme pour tout le monde? Que vient faire ici Gabriel Ivolgin? Pourquoi hier et aujourd'hui s'est-elle mise à vanter Gabriel Ivolgin et n'a-t-elle pas cessé de pleurer? Pourquoi, dans cette lettre anonyme, est-il question de ce maudit chevalier pauvre, alors qu'elle n'a pas même montré à ses sœurs le billet qu'elle avait reçu du prince? Et pourquoi ai-je couru tout à l'heure chez lui comme une possédée, et l'ai-je moi-même traîné ici? Seigneur, je suis folle, que de sottises je viens de faire. Parler à un jeune homme des secrets de ma fille, et encore de secrets qui, pour ainsi dire, le concernent lui-même. Seigneur, c'est encore bien heureux qu'il soit idiot, et que ce soit un ami de la maison. Seulement, est-il possible qu'Aglaé ait une toquade pour un pareil crétin? Seigneur, à quoi vais-je penser? Fille, nous sommes des types, tous, à commencer par moi, on devrait nous mettre sous verre et nous montrer pour 10 copecks. Je ne vous pardonne pas cela, Ivan Fedorovitch, je ne vous le pardonnerai jamais. Et pourquoi à présent ne le larde-t-elle pas? Elle avait promis de le larder, elle n'en fait rien. Oh! Comme elle le regarde attentivement. Elle se tait, elle ne s'en va pas, elle reste, et elle-même lui avait défendu de venir. Il est tout pâle. Et ce maudit bavard d'Eugène Pavlitch qui parle tout le temps, il n'y en a que pour lui. Il ne permet pas aux autres de placer un mot. Je saurais bien vite tout, si je pouvais seulement changer la conversation. Le prince, en effet, était assez pâle. Assis devant la table ronde, il semblait extrêmement effrayé, et néanmoins, par moments, une extase incompréhensible pour lui-même s'emparait de son âme. Oh, comme il avait peur de regarder d'un certain côté, vers le côté d'où le contemplaient fixement 2 yeux noirs bien connus. Mais en même temps, qu'il était heureux de se retrouver au milieu de cette famille et d'entendre la voix connue, après ce qu'on lui avait écrit. Seigneur, que dira-t-elle maintenant? Quant à lui, il n'avait pas encore proféré une parole, et il prêtait une oreille fort attentive aux propos d'Eugène Pavlovitch. Rarement ce dernier avait paru plus content et plus en train que ce soir-là. Le prince l'écoutait, et pendant longtemps il ne comprit presque rien à ses paroles. À l'exception d'Ivan Fedorovitch, qui n'était pas encore revenu de Pétersbourg, toute la famille Epanchin se trouvait là. Le prince y était aussi. On s'était réunis sans doute pour aller entendre la musique avant le thé. Bientôt, Kolia se montra sur la terrasse. « Ainsi, on continue à le recevoir ici », pensa à part soi le prince. L'habitation des Epanchin était une belle villa qui avait l'aspect d'un chalet suisse. De tous côtés, on apercevait des fleurs et de la verdure. Un jardin, petit mais très bien tenu, entourait la maison. Comme chez le prince, toute la société était assise sur la terrasse. Seulement, celle-ci était un peu plus grande et offrait un plus joli coup d'œil. Au moment où arriva Muishkin, la conversation roulait sur un sujet qui semblait déplaire à plusieurs. On pouvait deviner qu'une discussion assez vive venait d'avoir lieu. Tout le monde aurait préféré parler d'autre chose, mais Eugène Pavlovitch allait toujours son train sans remarquer l'impression produite par son langage. On le vit s'animer encore plus lorsque le prince eut fait son apparition. Elisabeth Prokofievna fronçait le sourcil, quoiqu'elle ne comprît pas tout. Aglaé, assise un peu à l'écart, ne se retira pas. La jeune fille écoutait et se renfermait dans un silence obstiné. « Permettez !» répliquait avec feu Radomski. « Je ne dis rien contre le libéralisme. Le libéralisme n'est pas un mal. Il fait partie intégrante d'un tout, qui, sans lui, se dissoudrait. Il a le droit d'exister tout aussi bien que le conservatisme le plus moral. Mais j'attaque le libéralisme russe, et je répète que si je l'attaque, c'est parce que le libéral russe n'est pas un libéral russe. Montrez-moi un libéral russe, et je l'embrasserai tout de suite devant vous. » Si toutefois il consent à vous embrasser, dit Alexandra Ivanovna, qui était fort excitée, comme le prouvait la rougeur inaccoutumée de son visage. Voilà, pensait Elisabeth Prokofievna, elle ne fait que manger et dormir. Rien ne peut secouer son apathie, et tout d'un coup, une fois par an, cette flegmatique personne s'emballe. Que c'est à n'y rien comprendre. Le prince crut s'apercevoir que le ton d'Eugène Pavlovitch était loin de plaire à Alexandra Ivanovna. Elle trouvait que le jeune homme traitait trop gaiement un sujet sérieux. Malgré la chaleur qu'il mettait dans ses paroles, il avait l'air de plaisanter. « Je soutenais tout à l'heure, au moment où vous êtes entré, prince, poursuivit Eugène Pavlovitch, que chez nous, jusqu'à présent, les libéraux se sont exclusivement recrutés dans deux classes absolument distinctes de la nation, les propriétaires de serres et les séminaristes. Il en est de même de nos socialistes. Tous ceux qui, soit ici, soit à l'étranger, revendiquent ce nom, ne sont, eux aussi, que des libéraux appartenant à la gentilhommerie contemporaine du servage. Pourquoi riez-vous ? Je n'aurai qu'à prendre leurs ouvrages, et sans être un critique littéraire, je vous prouverai, clair comme le jour, que chaque page de leurs livres, de leurs brochures, de leurs mémoires, a été écrite par un propriétaire russe de l'ancien temps. Leur colère, leur indignation, leur humour, sans le propriétaire, et le propriétaire le plus fossile. Leurs extases et leurs larmes peuvent être sincères, mais ce sont des extases et des larmes de hobereaux ou de séminaristes. Vous voilà encore à rire. Vous riez aussi, prince. Vous non plus, vous n'êtes pas de mon avis. En effet, les paroles d'Eugène Pavlovitch avaient provoqué une hilarité générale. Le prince lui-même souriait. Je ne puis pas encore dire si je suis ou non de votre avis, répondit Muishkin, qui avait tout à coup cessé de sourire et dont la physionomie effarée ressemblait maintenant à celle d'un écolier pris en faute. « Mais je vous assure que je vous écoute avec un plaisir extraordinaire. » Il prononça ces mots d'une voix étranglée, tandis qu'une sueur froide perlait sur son front. C'était la première fois qu'il ouvrait la bouche depuis son arrivée. Il voulut regarder autour de lui, mais il n'osa pas. Eugène Pavlovitch s'en aperçut et sourit. « Je vais, messieurs, vous citer un fait, » reprit-il avec ce mélange de chaleur et d'enjouement qui faisait soupçonner de l'ironie sous ses paroles les plus convaincues en apparence. « Un fait dont j'ai même l'honneur de m'attribuer exclusivement la découverte. Du moins, personne que je sache n'en a encore rien dit. Dans ce fait se révèle tout le fond du libéralisme russe dont je parle. D'abord, qu'est-ce, d'une façon générale, que le libéralisme, sinon la guerre, juste ou injuste, c'est une autre question, faite à l'ordre de choses existantes. C'est cela, n'est-ce pas? Eh bien, le fait découvert par moi, c'est que le libéralisme russe n'est pas une attaque à l'ordre de choses établi, mais aux choses mêmes, qu'il fait la guerre non aux institutions existantes, mais au pays. Mon libéral en est venu à nier la Russie, c'est-à-dire à haïr et à battre sa mère. Tout événement malheureux pour la Russie le fait rire, s'il ne l'enivre pas de joie. Il déteste les usages nationaux, l'histoire russe, tout. Son excuse, s'il en a une, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, et que sa haine de la Russie lui apparaît comme le libéralisme le plus fécond. Oh, vous rencontrez souvent chez nous des libéraux qui applaudissent les réactionnaires et qui sont peut-être, au fond, sans le savoir eux-mêmes, les conservateurs les plus absurdes, les plus obtus et les plus dangereux. Cette haine de la Russie, certains de nos libéraux, il n'y a pas encore longtemps, la prenaient presque pour le véritable amour de la patrie, et ils se vantaient de voir mieux que les autres en quoi doit consister ce sentiment. Mais maintenant, ils y mettent plus de franchise. Le mot même de « patriotisme » leur fait honte. Ils ont rejeté cette idée comme nuisible et méprisable. C'est là un phénomène dont aucun temps, aucun pays n'a encore fourni d'exemple. Comment donc en expliquer la présence chez nous? Par la raison que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir que le libéral russe n'est pas un libéral russe. Selon moi, il n'y a pas d'autre explication possible du fait. « Je considère tout ce que tu as dit comme une plaisanterie, Eugène Pavlitch, » répliqua d'un ton sérieux le prince Tch. « Je n'ai pas connu tous les libéraux, et je ne me charge pas de les juger, » ajouta Alexandra Ivanovna. « Mais je vous ai écouté avec indignation. Vous avez pris un cas particulier et vous l'avez érigé en règle générale. Par conséquent, votre accusation est calomnieuse. » « Un cas particulier ? Ah, le mot est dit !» reprit Eugène Pavlovitch. « Prince, qu'en pensez-vous ? Est-ce ou non un cas particulier ?»« Je dois dire aussi que j'ai peu vu et peu fréquenté les libéraux, » répondit le prince. « Mais il me semble que vous avez peut-être raison en partie, et que ce libéralisme russe dont vous parliez est, dans une certaine mesure, enclin à haïr la Russie elle-même, et pas seulement ses institutions. Bien entendu, cela n'est vrai que jusqu'à un certain point. Il ne serait pas juste d'étendre ce jugement à tout... » Il était si intimidé qu'il ne put achever sa phrase. Malgré son trouble, il prenait un intérêt extrême à la conversation. Une des particularités caractéristiques du prince était l'attention extraordinairement naïve avec laquelle il écoutait ce qui l'intéressait, comme aussi le sérieux qu'il apportait dans ses réponses quand on le questionnait. Sa physionomie, sa contenance même, reflétaient la foi candide d'un auditeur qui ne soupçonne pas qu'on se moque de lui. Eugène Pavlovitch, qui jusqu'alors avait souri d'une façon particulière en regardant le prince, fut cette fois si étonné de sa réponse qu'il le considéra d'un air très sérieux. « Ainsi, comme vous dites cela pourtant, » fit-il, « c'est sérieusement, prince, que vous m'avez répondu ? Mais est-ce que vous ne m'avez pas interrogé sérieusement ?» répliqua Mushkine surpris. Tout le monde se mit à rire. « Défiez-vous de lui, » dit Adélaïde. « Eugène Pavlitch a pour habitude de mystifier les gens. Si vous saviez ce qu'il raconte parfois avec le plus grand sérieux. » « À mon avis, c'est une conversation pénible, et il aurait mieux valu ne pas la commencer, » observa d'un ton aigre Alexandra. « On voulait aller se promener. »« Eh bien, partons !» cria Eugène Pavlovitch. « Mais pour vous prouver que cette fois j'ai parlé très sérieusement, » et surtout pour le prouver au prince, Vous m'avez extrêmement intéressé, prince, et je vous jure que je ne suis pas encore un homme aussi frivole que je dois certainement le paraître, quoique je sois en effet un homme frivole. Et, si vous le permettez, messieurs, je ferai au prince une dernière question. Par curiosité personnelle, ce sera la clôture. Comme par un fait exprès, cette question m'est venue à l'esprit il y a 2 heures. Vous voyez, prince, je songe aussi parfois à des choses sérieuses. Je l'ai décidé, mais je serai curieux de connaître l'opinion du prince. Tout à l'heure, on a parlé de cas particulier. Ces deux petits mots s'entendent très souvent chez nous. Dernièrement, la presse et le public se sont beaucoup occupés de cet épouvantable assassinat de 6 personnes par ce jeune homme et de l'étrange discours du défenseur, disant tant autre chose que, vu sa pauvreté, le coupable devait naturellement avoir l'idée d'assassiner ces 6 personnes. Ce n'est pas la phrase textuelle de l'avocat, mais c'en est le sens. À mon avis, en émettant une pensée aussi singulière, le défenseur était profondément convaincu qu'il disait la parole la plus humaine, la plus progressiste, la plus libérale qu'on puisse dire à notre époque. Eh bien, qu'en pensez-vous? Cette perversion des idées et des convictions, la possibilité d'une manière de voir aussi remarquablement fausse, est-ce un cas particulier ou général? Ce fut une nouvelle explosion d'hilarité. Particulier, naturellement, particulier, firent en riant Alexandra et Adélaïde. Permets-moi de te rappeler, Eugène Pavlitch, ajouta le prince Tch, que ta plaisanterie est déjà bien usée. Quel est votre avis, prince? Poursuivit sans l'écouter Radomski, qui avait surpris, attaché sur lui, le regard sérieux du prince Léon Nikolaïevitch. Que vous en semble? Est-ce un cas particulier ou général? C'est pour vous, je l'avoue, que j'ai imaginé cette question. Non, ce n'est pas un cas particulier, répondit le prince d'un ton bas mais ferme. Voyons, Léon Nikolaïevitch, cria avec une certaine colère le prince Tch. Est-ce que vous ne vous apercevez pas que sa question n'est qu'un piège et qu'il veut tout simplement vous faire aller? Mushkin rougit. Je pensais que Eugène Pavlitch parlait sérieusement, dit-il en baissant les yeux. Cher prince, continua le prince Tch, mais rappelez-vous la conversation que nous avons eue ensemble il y a 3 mois. Nous parlions justement du grand nombre d'avocats distingués que compte notre jeune barreau depuis la réforme de l'organisation judiciaire. Nous citions les sages verdicts rendus par notre jury. Combien vous-même étiez heureux d'un pareil état de choses et quel plaisir me causait votre joie. Nous disions qu'il y avait là matière à une légitime fierté. Cette maladroite défense, cet argument étrange, n'est sans doute qu'un accident, une exception qui fait tache parmi des milliers d'exemples contraires. Le prince Léon Nikolaïevitch réfléchit un moment, mais ce fut de l'air le plus convaincu, bien qu'à voix basse et même avec une sorte de timidité, qu'il répondit. Je voulais seulement dire que la perversion des idées, pour employer l'expression d'Eugène Pavlitch, se rencontre fort souvent. C'est malheureusement un cas beaucoup plus général que particulier. Si cette perversion était moins répandue, on ne verrait peut-être pas de crimes impossibles comme ces... Des crimes impossibles? Mais je vous assure que des crimes tout pareils, et peut-être plus épouvantables encore, ont eu lieu aussi autrefois, qu'il y en a toujours eu, non seulement chez nous, mais partout, et que, selon moi, ils ne disparaîtront pas d'ici à très longtemps. Seulement autrefois, il y avait chez nous moins de publicité. Maintenant, l'opinion s'occupe de ces criminels, tout le monde commande par la parole ou par la plume leurs faits et gestes, c'est pourquoi ils semblent constituer un phénomène nouveau dans la société. Voilà où gît votre erreur, prince, et elle est extrêmement naïve, je vous l'assure, observa avec un sourire moqueur le prince Tchou. Je sais bien moi-même qu'il s'est commis autrefois beaucoup de crimes et d'aussi épouvantables. Dernièrement encore, j'ai visité des prisons et j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec divers détenus, tant prévenus que condamnés. Il y a même des criminels plus effroyables que celui-là, des gens qui ont assassiné jusqu'à 10 personnes et qui ne s'en repentent nullement. Mais voici ce que j'ai remarqué dans mes rapports avec ces scélérats. L'assassin le plus endurci, le plus inaccessible aux remords, sait néanmoins qu'il est un criminel, c'est-à-dire qu'il croit en conscience avoir mal agi, lors même qu'il n'éprouve aucun repentir de ses actes. C'est ainsi qu'ils sont tous, tandis que ceux dont a parlé Eugène Pavlitch ne veulent même pas se croire coupables. En eux-mêmes, ils estiment qu'ils étaient dans leurs droits et qu'ils ont bien fait. Du moins, telle est à peu près leur conviction. Eh bien, cela fait, à mon avis, une différence terrible. Et notez que tous sont des jeunes gens, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'âge où la perversion des idées s'opère le plus facilement. Le prince Tch avait cessé de rire et il écoutait Mnuchin avec étonnement. Alexandra Ivanovna, qui depuis longtemps voulait faire une observation, gardait le silence et semblait avoir un motif particulier pour se taire. Eugène Pavlovitch, décidément surpris, considérait le prince sans que cette fois son visage eût aucune expression moqueuse. « Mais pourquoi le regardez-vous d'un air si ébahi, monsieur ?» demanda brusquement Elisabeth Prokofievna. « Vous le croyez plus bête que vous, n'est-ce pas? Vous pensiez qu'il était incapable de raisonner ?»« Non, ce n'est pas là ce qui m'étonne, » dit Eugène Pavlovitch. « Seulement, prince, comment... excusez ma question. Si vous voyez et remarquez si bien cela, comment donc se fait-il... encore une fois, pardonnez-moi... que dans cette étrange affaire, celle qui a eu lieu ces jours derniers, l'affaire de Bourdovski, si je ne me trompe, comment se fait-il que vous n'ayez pas remarqué cette même perversion des idées et des convictions morales? C'est exactement la même. Il m'a semblé alors que vous ne vous en aperceviez pas du tout. « Eh bien, voilà, Batouchka, » reprit en s'échauffant la générale. Nous autres, nous avons tous remarqué cela, et nous sommes ici à nous vanter devant lui de notre pénétration. Mais aujourd'hui, il a reçu une lettre de l'un d'eux, du principal, celui qui a le visage bourgeonné. Tu te le rappelles, Alexandra? Cet homme, dans sa lettre, lui demande pardon, à sa manière, bien entendu. Il déclare qu'il a rompu avec le camarade qui l'excitait alors. Tu te souviens, Alexandra? Et que maintenant il croit plutôt le prince. Eh bien, nous autres, nous n'avons pas encore reçu une pareille lettre. Cela devrait nous apprendre à ne pas lever le nez si haut devant lui. Et Hippolyte est aussi venu demeurer à la campagne avec nous, cria Kolia. Comment? Il est déjà ici? Demanda le prince alarmé. Il est arrivé au moment où vous veniez de partir avec Elisabeth Prokofievna. C'est moi qui l'ai amené. Eh bien, je parie, fit avec une colère subite Elisabeth Prokofievna, oubliant soudain qu'elle avait pris un instant auparavant la défense du prince. Je parie qu'il est allé hier trouver ce méchant garçon dans son grenier, qu'il lui a demandé pardon à genoux et l'a supplié de se transporter ici. Tu as été le voir hier. Voyons, toi-même tu l'avouais tantôt. Y as-tu été, oui ou non? T'es-tu mis à ses genoux? « Pas du tout !» cria Kolia. « C'est tout le contraire. Hier, Hippolyte a pris la main du prince et l'a baisée à 2 reprises. J'en ai moi-même été témoin. À cela s'est bornée toute l'explication, sauf que le prince lui a dit simplement qu'il serait mieux à la campagne. Hippolyte a aussitôt répondu qu'il s'y rendrait dès que son état le lui permettrait. « Vous avez tort, Kolia. » balbutia le prince en se levant et en prenant son chapeau. « Pourquoi racontez-vous cela? Je... »« Où vas-tu ? » demanda Elisabeth Prokofievna. « Ne vous dérangez pas, prince !» poursuivit avec feu Kolia. « N'allez pas l'agiter par votre présence. En ce moment, il se repose de la fatigue du voyage. Il est très content. Et vous savez, prince, à mon avis, vous feriez mieux de ne pas le voir maintenant. Attendez même jusqu'à demain, autrement il se troublera encore. Ce matin, il m'a dit que depuis 6 mois il ne s'était pas senti aussi bien portant, ni aussi fort. Il tousse même 3 fois moins. Le prince s'aperçut qu'Aglaé avait brusquement quitté sa place et s'était approché de la table. Il n'osait pas lever les yeux sur elle, mais il sentait dans tout son être qu'en ce moment elle le regardait, et peut-être d'un air menaçant, qu'il y avait à coup sûr de l'indignation dans les yeux noirs de la jeune fille et de la rougeur sur son visage. « Mais il me semble, Nicolas Ardalionovitch, que vous avez mal fait de la mener à Pavlovsk. Si c'est ce garçon phtisique qui l'autre jour pleurait et nous invitait à son enterrement, » observa Eugène Pavlovitch. Il a parlé alors avec tant d'éloquence du mur voisin de sa maison que certainement il en aura la nostalgie, vous pouvez en être sûr. C'est très juste, il se brouillera avec toi, te fera une scène et s'en ira, voilà ce qui t'attend. Et oubliant que tout le monde s'était déjà levé pour aller à la promenade, Elisabeth Prokofievna attira à elle, par un mouvement plein de dignité, la corbeille où se trouvait son ouvrage. « Je me rappelle qu'il a fait beaucoup de phrases sur ce mur, » reprit Eugène Pavlovitch. « Sans ce mur, il ne pourra pas mourir éloquemment, et il tient fort à cela. »« Eh bien quoi ? » murmura le prince. « Si vous ne voulez pas lui pardonner, il mourra sans votre pardon. C'est pour les autres qu'il s'est maintenant transporté ici. » Oh, en ce qui me concerne, je lui pardonne tout, vous pouvez le lui dire. Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre cela, répondit le prince à voix basse et comme avec répugnance, tandis qu'il tenait toujours ses yeux fixés à terre. Il faut que vous consentiez aussi à recevoir son pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel tort me suis-je donné envers lui? Si vous ne le comprenez pas, en ce cas... Mais vous le comprenez, il voulait alors vous bénir tous et recevoir votre bénédiction, voilà tout. Le prince Tch échangea un regard avec une des personnes présentes, puis, d'un ton qui exprimait une certaine inquiétude, « Cher prince, se hâta-t-il de dire, le paradis sur la terre ne s'obtient pas facilement, et vous paraissez vous faire quelque illusion à ce sujet. Le paradis est une chose difficile, prince. » Beaucoup plus difficile que ne le croit votre excellent cœur. Nous ferons mieux d'en rester là. Autrement, il y aura encore de la confusion pour tout le monde. Et alors... Allons entendre la musique, décida d'un ton roide Elisabeth Prokofievna, et elle se leva avec colère. Tous firent comme elle. Chapitre 2. Le prince s'approcha tout à coup de Radomski. « Eugène Pavlitch, dit-il avec une chaleur étrange en lui saisissant la main, « soyez sûr que je vous considère, malgré tout, comme l'homme le plus noble et le meilleur. Soyez-en persuadé. » L'étonnement d'Eugène Pavlovitch fut tel qu'il recula d'un pas. Durant un instant, il lutta contre une violente envie de rire, mais... En examinant mieux le prince, il remarqua que celui-ci ne paraissait pas avoir conscience de ses actes, ou du moins se trouvait dans un état particulier. « Je parie, prince, s'écria-t-il, que vous ne vouliez pas du tout me dire cela, ni même peut-être m'adresser la parole. Mais qu'avez-vous? Ne vous sentez-vous pas mal? Peut-être, c'est fort possible, et vous avez très finement observé que je ne voulais peut-être pas vous parler. » En prononçant ces mots, le prince avait sur les lèvres un sourire étrange et même ridicule, mais soudain il poursuivit avec véhémence. « Ne me rappelez pas la conduite que j'ai tenue avant-hier, j'en suis profondément honteux, je sais que je suis coupable. » « Mais quel crime si affreux avez-vous donc commis ? Je vois que vous en êtes peut-être plus honteux pour moi que personne, Eugène Pavlovitch. Vous rougissez, c'est la marque d'un excellent cœur. Je vais partir tout de suite, soyez-en sûr. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est ainsi que commencent ses accès, n'est-ce pas? Demanda à Kolia, la générale effrayée. Ne faites pas attention, Elisabeth Prokofievna, je n'ai pas d'accès. Je vais m'en aller tout de suite. Je sais que je suis disgraciée de la nature. Pendant 24 ans, j'ai été malade, depuis ma naissance jusqu'à ma 24e année. Prenez donc encore cela comme le fait d'un malade. Je vais partir tout de suite, soyez-en sûr. Je ne rougis pas, car il serait étrange de rougir de cela, n'est-il pas vrai? Mais je suis de trop dans la société. Ce n'est pas l'amour-propre qui me fait parler ainsi. J'ai beaucoup réfléchi durant ces 3 jours, et j'ai jugé que je devais, à la première occasion, vous dire franchement et noblement les choses. Il y a des idées élevées dont il ne m'est pas permis de parler, parce que je fais nécessairement rire tout le monde. Le prince Tch me l'a rappelé tout à l'heure. Je n'ai ni le geste convenable, ni le sentiment de la mesure. Mon langage ne répond pas à ma pensée, de sorte qu'en me faisant l'organe de ses idées, je les ridiculise. Aussi, je n'ai pas le droit. De plus, je suis soupçonneux, je suis convaincu qu'on ne peut m'offenser dans cette maison, et qu'on m'aime plus que je ne le mérite. Mais je sais, voyez-vous, je sais, de la façon la plus positive, qu'une maladie de 24 ans a dû forcément laisser des traces, et qu'il est impossible de ne pas rire de moi, quelquefois, n'est-ce pas? Il promena ses regards autour de lui, ayant l'air d'attendre une réponse. Ses auditeurs, péniblement surpris, ne savaient que penser de ce langage imprévu, maladif, et que rien ne semblait motivé. Mais la brusque sortie du prince donna lieu à un épisode étrange. « Pourquoi dites-vous cela ici ? » cria tout à coup Aglaé. « Pourquoi leur dites-vous cela, à eux ? À eux ?» La jeune fille paraissait indignée au plus haut point, ses yeux lançaient des flammes. Le prince resta muet devant elle et soudain pâlit. « Ici, il n'y a personne qui mérite de telles paroles !» éclata Aglaé. « Ici, pas un ne vaut votre petit doigt. Pas un n'a ni votre esprit ni votre cœur. Vous êtes plus honnête que tous, plus noble que tous, meilleur que tous, plus intelligent que tous. Ici, il n'y a que des gens indignes de ramasser le mouchoir que vous venez de laisser tomber. Pourquoi donc vous humiliez-vous et vous mettez-vous au-dessous de tous? Pourquoi avez-vous tout détruit en vous? Pourquoi n'avez-vous pas d'orgueil? Seigneur, pouvait-on s'attendre à cela? Fit Elisabeth Prokofievna en frappant ses mains l'une contre l'autre. « Le chevalier pauvre, hurrah !» cria Kolia enthousiasmé. « Taisez-vous. Comment ose-t-on m'offenser ici dans votre maison ?» dit violemment à sa mère Aglaé, qui était déjà dans cet état hystérique où l'on ne calcule plus la portée de ses paroles. « Pourquoi tous, tous jusqu'au dernier, me persécutent-ils ? Pourquoi depuis 3 jours, prince, tous ne cessent-ils de me faire la guerre à votre sujet ? Pour rien au monde je ne vous épouserai. Sachez qu'à aucun prix je ne deviendrai votre femme. Sachez cela. Est-ce qu'on peut épouser un homme aussi ridicule que vous? Regardez-vous maintenant dans une glace et voyez comme vous êtes en ce moment. Pourquoi, pourquoi me taquine-t-on en me répétant sans relâche que je vais vous épouser? Vous devez le savoir. Vous êtes d'intelligence avec eux. »
Personne ne l'a jamais taquiné, murmura Adélaïde inquiète.
On n'y a jamais pensé, personne n'a parlé de cela, s'écria Alexandra Ivanovna. Qui est-ce qui t'a taquiné? Quand l'a-t-on taquiné? Qui a pu lui dire cela? Est-ce qu'elle a le délire? Demanda en s'adressant à tout le monde Elisabeth Prokofievna, tremblante de colère. Tous l'ont dit, tous jusqu'au dernier ne cessent de me corner cela aux oreilles depuis 3 jours. « Jamais, jamais je ne me marierai avec lui !» Après avoir proféré cette exclamation, Aglaé fondit en larmes. Elle cacha son visage avec son mouchoir
et se laissa tomber sur une chaise.
« Mais il ne t'a pas encore de... »«
Je ne vous ai pas demandé en mariage, Aglaé Ivanovna, » s'échappa à dire le prince.
« Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?»
fit d'une voix traînante Elisabeth Prokofievna, surprise, indignée, épouvantée. Elle ne voulait pas en croire ses oreilles.
« J'ai voulu dire,
reprit en tremblant le prince, « je voulais seulement déclarer à Aglaé Ivanovna avoir l'honneur d'expliquer que je n'avais nullement l'intention d'avoir l'honneur de demander sa main, en aucun temps même. Ici, je ne suis coupable de rien. Je vous assure, Aglaé Ivanovna, que ce n'est pas ma faute. Jamais je n'ai voulu cela. » Jamais cette idée ne m'est venue et ne me viendra, vous le verrez vous-même. Vous pouvez en être sûr. Quelque méchant homme m'aura calomnié auprès de vous. Soyez tranquille. »
En prononçant ces mots, il s'était approché d'Aglaé. Elle ôta le mouchoir qui couvrait son visage, regarda rapidement le prince, dont la contenance était celle d'un homme profondément effrayé, se rappela les paroles qu'il venait de lui adresser, et tout d'un coup partit d'un franc éclat de rire. La contagion de cette hilarité gagna d'abord Adélaïde. Après avoir aussi jeté les yeux sur le prince, la jeune fille s'élança vers sa sœur, l'embrassa et, à son tour, se mit à rire non moins gaiement qu'Aglaé. En les regardant, Muishkin lui-même sourit et répéta d'un ton joyeux « Allons, Dieu soit loué, Dieu soit loué !»
Cette fois, Alexandra n'y put tenir et s'esclaffa comme ses sœurs. Il semblait que le rire des trois jeunes filles ne dût pas avoir de fin.
« Eh bien, elles sont folles !» grommela Elisabeth Prokofievna. « Elles vous effrayent et l'instant d'après... »
Mais déjà tout le monde riait. Et le prince Tchou, et Eugène Pavlovitch, et Kolia, et le prince Léon Nikolaïevitch lui-même.
« Allons nous promener, partons !»
cria Adélaïde.
« Tous ensemble, et que le prince vienne avec nous. Vous n'avez pas de raison pour nous fausser compagnie, cher homme. Il est bien gentil, n'est-ce pas, Aglaé ? N'est-ce pas, maman ? Et puis il faut absolument que je l'embrasse pour son explication de tout à l'heure avec Aglaé. Maman, chère, vous me permettez de l'embrasser ? Aglaé, permets-moi d'embrasser ton prince. »
Sur ce, elle s'approcha vivement de Muishkin et le baisa au front. Il lui saisit la main, la serra presque à faire crier la jeune fille et contempla celle-ci avec une joie infinie. Ensuite, par un mouvement rapide, il porta cette main à ses lèvres et la baisa trois fois.
« Partons donc, » fit Aglaé. « Prince, vous serez mon cavalier.
Cela se peut, maman. Un cavalier qui ne veut pas de moi. Vous avez, n'est-ce pas, refusé définitivement ma main, prince.
Mais ce n'est pas ainsi qu'on donne le bras à une dame. Est-ce que vous ne savez pas comment on fait ?
Là, c'est bien. Partons, nous ouvrirons la marche. Voulez-vous que nous marchions en avant de tous, tête à tête ? »
Elle parlait sans discontinuer, riant encore par saccade.
« Dieu soit loué, Dieu soit loué !»
répéta Elisabeth Prokofievna, qui ne savait pas elle-même de quoi elle se réjouissait.
« Ce sont des gens excessivement étranges !» pensait le prince Tch,
peut-être pour la centième fois depuis qu'il connaissait les Epanchin. Mais ces gens étranges lui plaisaient. À l'égard du prince Léon Nikolaïevitch, nous n'oserions affirmer qu'il éprouva le même sentiment. Tch était un peu sombre et paraissait préoccupé lorsqu'on partit pour la promenade. Eugène Pavlovitch semblait de très bonne humeur. Pendant toute la route, jusqu'au Hall, il causa de la façon la plus enjouée avec Alexandra et Adélaïde. Elle riait si complaisamment de ses bons mots qu'il finit par soupçonner que peut-être elle ne l'écoutait pas du tout. Cette pensée, sans qu'il s'expliquât pourquoi, le fit soudain rire lui-même de très bon cœur. Tel était son caractère. Les deux jeunes filles, très gaies, du reste, avaient toujours les yeux fixés sur Aglaé et le prince qui marchaient en avant d'elles. Évidemment, la manière d'être de leur cadette les intriguait fort. le prince Tch, peut-être pour changer le cours des idées de la générale, s'ingéniait à lui parler de choses indifférentes, mais il ne réussissait qu'à l'ennuyer énormément. Elisabeth Prokofievna paraissait toute déroutée. Elle répondait de travers et parfois même laissait les questions sans réponse. Aglaé Ivanovna posa encore plus d'une énigme durant cette soirée. La dernière fut réservée au prince seul. Quand ils se trouvèrent à 100 pas de la maison, la jeune fille, s'adressant à demi-voix à son cavalier qui ne soufflait mot, lui dit rapidement « Regardez à droite !» Il tourna les yeux dans la direction indiquée. « Regardez plus attentivement. Voyez-vous ce petit banc dans le parc, là où sont ces 3 grands arbres? Un banc vert. » Le prince répondit qu'il le voyait. « Est-ce que ce site vous plaît ? Parfois, à 7 heures du matin, lorsque tout le monde dort encore, je vais là m'asseoir seul. » Le prince balbutia que l'endroit était ravissant. « Maintenant, laissez-moi. Je ne veux plus marcher bras dessus, bras dessous avec vous. Ou plutôt, donnez-moi toujours le bras, mais ne me dites pas un mot. Je ne veux pas être troublé dans mes réflexions. » Cette injonction, en tout cas, était superflue. Pour garder le silence pendant toute la promenade, le prince n'avait certes pas besoin qu'on le lui ordonnât. Son cœur s'était mis à battre avec violence quand Aglaé avait parlé du banc. Au bout d'une minute, il eut honte de l'idée absurde qui lui était venue à l'esprit. Les jours ouvrables, comme on sait, le Wo-Hall de Pavlovsk est mieux fréquenté que les jours fériés où Pétersbourg lui envoie des visiteurs de toute espèce. Pour n'être pas endimanché, le public ne laisse pas d'être élégant. Il est reçu d'aller entendre la musique. L'orchestre tient peut-être le premier rang parmi tous ceux de ce genre, et il joue des choses nouvelles. Les lois du décorum sont strictement observées, bien qu'on soit là un peu comme en famille. Parmi les gens en villégiature à Pavlovsk, beaucoup vont au Wo-Hall pour y rencontrer leurs connaissances. Il en est toutefois qui n'y sont attirés que par la musique. Les scandales sont extrêmement rares, quoiqu'ils s'en produisent pourtant, même pendant la semaine. Mais il est impossible d'empêcher cela. Cette fois, la soirée était charmante, et il y avait assez de monde. Toutes les places autour de l'orchestre étant occupées, notre société s'assit un peu à l'écart, à gauche, tout près d'une sortie. La foule, la musique, procurèrent quelques distractions à Elisabeth Prokofievna et à ses filles. Elles échangeaient des coups d'œil avec diverses personnes de leur connaissance, ou leur adressaient de loin des saluts aimables. Elles examinaient les toilettes, notaient certaines étrangetés, et s'en entretenaient avec un sourire moqueur. Eugène Pavlovitch saluait aussi très souvent. Plusieurs remarquèrent Aglaé et le prince qui étaient encore ensemble. Bientôt, les dames et Ponchin virent s'approcher d'elles quelques jeunes gens qu'elles connaissaient. 2 ou 3 restèrent pour faire un bout de conversation. Tous étaient des amis d'Eugène Pavlovitch. Parmi eux se trouvait un jeune officier, très bien de sa personne, très gai, très causeur. Il s'empressa d'adresser la parole à Aglaé et ne négligea rien pour captiver l'attention de la jeune fille, qui lui donna la réplique avec beaucoup d'amabilité et d'enjouement. Eugène Pavlovitch demanda au prince la permission de lui présenter cet ami. Mushkin comprit à peine ce qu'on lui voulait, néanmoins la présentation eut lieu. Les 2 hommes se saluèrent et se tendirent la main. L'ami de Radomski fit une question au prince, mais ce dernier n'y répondit pas, ou mâchonna quelques mots d'une façon si étrange que l'officier l'examina fort attentivement. Il regarda ensuite Eugène Pavlovitch et comprit aussitôt pourquoi celui-ci avait imaginé de les présenter l'un à l'autre. Le jeune homme sourit légèrement et se remit à causer avec Aglaé. Seul, Eugène Pavlovitch remarqua qu'elle avait rougi pendant cette courte scène. Le prince ne s'apercevait même pas que d'autres conversaient avec Aglaé et se mettaient en frais de galanterie pour elle.
bien plus. Par moments, il semblait oublier que lui-même était assis à côté de la jeune fille. Parfois, il avait envie de s'en aller quelque part, de disparaître définitivement. Un lieu sombre, désert, ne lui aurait pas déplu, s'il avait pu trouver là une retraite ignorée de tout le monde et y demeurer seul avec ses pensées. Ou, du moins, il aurait voulu être chez lui, sur sa terrasse, mais sans avoir personne à ses côtés, ni les BDF, ni les enfants. Volontiers, il aurait passé 36 heures couché sur son divan, le visage enfoui dans un coussin. Par instants aussi, il rêvait aux montagnes, notamment à certains sommets, son lieu de promenade favori quand il était en Suisse. De cette cime, il voyait au-dessous de lui les nuages blancs, le village, les ruines d'un vieux château, la cascade, semblable à un fil blanc à peine visible. Oh, combien il aurait voulu maintenant se retrouver là et penser à une chose. Oh, toute sa vie à cela seulement, dût-il vivre 1000 années. Ici, peu lui importait qu'on l'oubliât complètement. Cela serait préférable. Et même, il aurait mieux valu qu'on ne l'eût jamais connu, et que toute cette vision n'eût été qu'un rêve. D'ailleurs, n'en était-ce pas un? Parfois, il se mettait brusquement à considérer Aglaé et ne la quittait pas des yeux durant 5 minutes. Mais son regard était étrange. On aurait dit qu'il contemplait la jeune fille comme un objet situé à 2 verstes de lui, ou comme un portrait, et non comme une personne réelle. « Pourquoi me regardez-vous ainsi, prince ? » demanda-t-elle soudain, cessant de causer et de rire avec son entourage. « J'ai peur de vous. Il me semble toujours que vous voulez étendre le bras et toucher du doigt mon visage pour en constater la réalité. N'est-ce pas, Eugène Pavlitch, qu'on dirait cela à le voir ?» Le prince parut surpris qu'on lui adressa la parole. Il écouta, essaya de comprendre, et peut-être n'y réussit pas très bien, car il ne répondit pas. Mais voyant qu'Aglaé et les autres riaient, il ouvrit tout à coup la bouche et se mit lui-même à rire. À cette vue, l'hilarité redoubla autour de lui. L'officier, qui devait être un homme fort gai, se tordit. Soudain, Aglaé, irrité, murmura en aparté « Idiot !»« Seigneur, mais est-il possible qu'elle aime un pareil ? Se peut-il donc qu'elle soit tout à fait folle ?» grommela en grinçant des dents Elisabeth Prokofievna. Alexandra se pencha à l'oreille de sa mère. « C'est une plaisanterie. C'est la même plaisanterie que l'autre jour avec le chevalier pauvre. Rien de plus !» assura la jeune fille. Elle a encore voulu lui faire une charge aujourd'hui. Seulement elle est allée trop loin. Il faut mettre fin à cela, maman. Tantôt elle a joué une comédie pour nous faire peur. C'est encore bien heureux qu'elle se soit attaquée à un pareil idiot, répondit à voix basse la générale, à qui d'ailleurs les paroles de sa fille avaient apporté quelque soulagement. Cependant, le prince entendit qu'on le traitait d'idiot. Il tressaillit. Non à cause de cette épithète, il l'oublia immédiatement. Mais parce que, non loin de l'endroit où il était assis, il venait d'apercevoir dans la foule un visage pâle, avec des cheveux bruns et crépus, avec un sourire et un regard qu'il connaissait bien. Cette vision n'eut que la durée d'un éclair. Ce pouvait n'être qu'une imagination. Le prince distingua seulement un sourire grimaçant, 2 yeux, et une prétentieuse cravate verte. Où avait passé le monsieur à qui appartenait cette cravate? S'était-il perdu dans la foule ou glissé dans le hall? Mishkin n'aurait pas pu le dire. Mais, au bout d'une minute, il commença à jeter des regards inquiets autour de lui. Cette première apparition en présageait peut-être une seconde. Comment n'avait-il pas songé à la possibilité de certaines rencontres quand on était parti pour le Who Hall? À vrai dire, il s'y était rendu sans savoir où il allait, tant il était troublé en sortant de la villa. S'il avait été plus en état de faire des observations, il aurait remarqué, depuis un quart d'heure, l'inquiétude d'Aglaé, qui, de temps à autre, parcourait des yeux la foule, comme pour y chercher quelque chose. À mesure que l'agitation du prince devenait plus visible, celle de la jeune fille se manifestait davantage aussi. Ce qu'ils attendaient, avec cette anxiété, ne tarda pas à se produire. Nous avons dit que le prince et toute la société des Epanchin avaient pris place auprès d'une sortie à gauche. Tout à coup, déboucha par cette issue un groupe composé d'au moins 10 personnes. En avant marchaient 3 dames. 2 d'entre elles étaient d'une beauté remarquable, et il n'y avait pas à s'étonner qu'elles traînassent tant d'adorateurs à leur suite. Mais hommes et femmes tranchaient singulièrement sur le reste du public. Presque tout le monde les remarqua aussitôt. Toutefois, la plupart finirent de ne pas les apercevoir. Seuls certains jeunes gens sourirent à leur vue et se dirent quelques mots à demi-voix. Vainement, on aurait voulu ignorer la présence des nouveaux venus. Ils parlaient trop bruyamment pour ne pas attirer l'attention. Il était à supposer que parmi eux se trouvaient des hommes ivres. Si plusieurs des individus composant ce groupe étaient vêtus avec élégance, d'autres avaient des vêtements fort hétéroclites et des visages étrangement enflammés. Il y avait là des militaires et aussi des gens qui n'étaient plus jeunes. Quelques-uns de ces messieurs, mis comme de véritables dandys, avaient des bagues et des boutons de manchette superbes, des cheveux et des favoris d'un noir de jais. Leur physionomie respirait la morgue, mais c'était de ces êtres que, dans le monde, on évite comme la peste. Parmi nos réunions suburbaines, il en est sans doute qui brillent par la respectabilité et qui ont une réputation de bon ton parfaitement justifiée. Mais l'homme le plus circonspect ne peut pas répondre qu'à un moment donné une brique ne se détachera pas de la maison voisine pour lui tomber sur la tête. Cette brique allait maintenant tomber sur le public comme il faut, qui était en train d'écouter la musique. Pour se rendre du Woo Hall à la petite place où était installé l'orchestre, il faut descendre 3 marches. Arrivé près de cet escalier, la bande s'arrêta. Tandis que les autres hésitaient à pousser plus avant, une des femmes se mit en devoir de descendre. Dans son entourage, 2 hommes seuls osèrent la suivre. L'un était un monsieur entre 2 âges qui avait l'air assez modeste. Son extérieur était convenable sous tous les rapports, mais il paraissait être de ces gens qui ne connaissent jamais personne et que personne ne connaît. L'autre fidèle était tout déguenillé et avait une mine fort équivoque. À l'exception de ces 2-là, nul n'accompagna la dame excentrique. Néanmoins, elle descendit les marches sans même jeter un regard derrière elle. Qu'on la suivît ou non, cela semblait lui être parfaitement égal. Comme tout à l'heure, elle riait et parlait bruyamment. Sa toilette était fort riche, mais d'une élégance un peu trop tapageuse. Elle passa devant l'orchestre, se dirigeant vers l'autre côté de la place où une calèche attendait au bord du chemin. Il y avait déjà plus de 3 mois que le prince ne l'avait vue. Depuis son arrivée à Pétersbourg, il se proposait chaque jour de lui faire visite. Mais peut-être un secret pressentiment l'en empêchait. Du moins, il ne pouvait deviner ce qu'il éprouverait en se retrouvant avec elle. Et parfois il essayait, non sans appréhension, de se le représenter. Une seule chose était claire pour lui, c'est que cette rencontre serait pénible. Plusieurs fois durant ces 6 mois, il s'était rappelé ce qu'il avait ressenti tout d'abord, non pas même en présence de cette femme, mais devant son portrait. Et cette impression, il s'en souvenait, avait été très douloureuse. Le mois qu'il avait passé en province, dans des rapports presque journaliers avec Nastasia Philipovna, avait été rempli pour lui de tels tourments que parfois même le prince aurait voulu oublier tout à fait ce temps-là. Il y avait toujours eu dans le visage de cette femme quelque chose de déchirant pour Mushkine. En causant avec Parfen Semenitch, il avait traduit cette sensation par les mots de « compassion infinie ». Et c'était la vérité. Rien qu'à voir le portrait de Nastasia Philipovna, il avait eu le cœur pris d'une pitié allant jusqu'à la souffrance. Cette sympathie douloureuse, poignante, persistait maintenant encore. Elle était même plus forte qu'autrefois. Pourtant, dans les paroles qu'il avait dites à Rogojine, le prince constatait une lacune. Maintenant seulement, dans cette minute où Nastassia Philippovna apparaissait à l'improviste devant lui, il comprenait, peut-être par une intuition immédiate, qu'il n'avait pas tout dit à Rogojine. Il aurait dû ajouter qu'à la compassion se joignait l'effroi. Oui, l'effroi. À présent, dans cette minute, il le ressentait pleinement. Il était convaincu, positivement convaincu, pour certaines raisons à lui connues, que Nastassia Philippovna était folle. Supposez que, aimant une femme plus que tout au monde, ou pressentant la possibilité de cet amour, vous la voyez soudain couverte de chaîne, derrière une grille de fer, sous le bâton d'un surveillant. Vous aurez une idée des sensations qui agitaient le prince en ce moment. Aglaé l'examina, puis d'une voix basse et rapide, « Qu'avez-vous ? » lui demanda-t-elle en le tirant naïvement par le bras. Le prince tourna la tête vers elle, la regarda, et vit alors dans ses yeux noirs une flamme incompréhensible pour lui. Il essaya de sourire à Aglaé, mais tout à coup, comme s'il eût soudain oublié la présence de la jeune fille, il reporta ses yeux à droite, vers l'extraordinaire vision qui, depuis un moment, le fascinait. Au même instant, Nastassia Philippovna passa devant les chaises occupées par les demoiselles. Eugène Pavlovitch continuait à parler avec beaucoup de volubilité et d'entrain. Il racontait à Alexandra Ivanovna quelque chose qui devait être fort drôle. Le prince se rappela plus tard qu'Aglaé dit soudain à demi-voix « Quelle ?» Elle n'acheva point sa phrase, mais le mot qu'elle venait de prononcer était suffisant. Nastassia Philippovna, qui marchait sans avoir l'air de faire attention à personne, se tourna brusquement du côté des Epanchin, et alors seulement parut remarquer la présence de Eugène Pavlovitch. « Bah, mais le voilà » s'écria-t-elle en s'arrêtant tout à coup. « L'autre jour, on a eu beau lui envoyer un tas de courriers, pas moyen de le dénicher. Et aujourd'hui, on le trouve là où on ne se serait pas attendu à le voir. Je te croyais là-bas, chez ton oncle. » Eugène Pavlovitch rougit. Il lança à Nastassia Philippovna un regard plein de rage, mais aussitôt après détourna les yeux. « Quoi ? Est-ce que tu ne le sais pas ? Il ne sait rien encore, figurez-vous. Il s'est tué. Ce matin, ton oncle s'est brûlé la cervelle. Je ne l'ai appris que tantôt, à 2 heures, mais maintenant la moitié de la ville le sait. Suivant les uns, le déficit qu'il laisse serait de 350 000 roubles, mais d'autres parlent de 500 000. Et moi, j'avais toujours compté qu'après lui, tu hériterais encore d'une fortune. Il a tout mangé. C'était un vieux libertin. Allons, adieu, bonne chance. Ainsi, tu ne vas pas en voyage. Tout de même, tu as eu bon nez de quitter le service avant cette affaire. Mais ce n'est pas possible, tu savais cela. Tu l'avais déjà appris. Peut-être le savais-tu depuis hier. » En s'affichant ainsi comme la maîtresse d'un homme qui n'avait jamais été son amant, Nastassia Philippovna avait certainement un but. À présent, la chose ne pouvait plus faire doute. Néanmoins, Eugène Pavlovitch ne voulait d'abord répondre à cette nouvelle avanie que par le mépris. Mais les paroles de la jeune femme furent pour lui un coup de foudre. Lorsqu'elle lui eut appris que son oncle était mort, il devint pâle comme un mouchoir, et se tourna vers sa persécutrice. En ce moment, la générale se leva avec vivacité et se retira précipitamment, accompagnée de tout son monde. Seuls, le prince Léon Nikolaïevitch et Eugène Pavlovitch ne se décidèrent pas à s'en aller tout de suite. Le premier semblait irrésolu, le second n'avait pas encore recouvré sa présence d'esprit. Mais avant que les Epanchin eussent fait 100 pas, se produisit un scandale terrible. L'officier qui causait tout à l'heure avec Aglaé et qui se trouvait être un intime d'Eugène Pavlovitch était indigné au plus haut degré. « Ici, il faut tout bonnement user de la cravache. Sans cela, on ne viendra jamais à bout de cette créature » dit-il d'une voix assez forte. Apparemment, il avait déjà reçu les confidences d'Eugène Pavlovitch. Nastassia Philipovna se tourna aussitôt vers lui, les yeux flamboyants de colère. À deux pas d'elle se trouvait un jeune homme qu'elle ne connaissait pas du tout et qui tenait à la main une mince canne de jonc. Elle la lui arracha et de toute sa force en cingla le visage de son insulteur. Tout cela fut l'affaire d'un instant. Hors de lui, l'officier se rua sur la jeune femme qui n'avait plus alors autour d'elle aucun de ses gardes du corps. Le monsieur entre deux âges avait déjà réussi à s'éclipser complètement. L'autre s'était écarté et riait de tout son cœur. Au bout d'une minute, sans doute, la police serait intervenue. Trop tard, toutefois, pour soustraire Nastassia Philipovna à un châtiment sévère, s'il n'était arrivé à celle-ci un secours inattendu. Le prince, qui se tenait aussi à deux pas d'elle, eut le temps de saisir par derrière les bras de l'officier. En se dégageant, ce dernier lui donna dans la poitrine une poussée qui le fit reculer de trois pas et l'envoya tomber sur une chaise. Mais déjà, Nastassia Philipovna avait trouvé de nouveaux défenseurs. Au moment où l'officier allait fondre sur elle, devant lui surgit le boxeur qui avait fait partie de la bande de Rogojine et rédigé l'article sur l'affaire Bourdovski. « Keller, ancien lieutenant, » dit-il avec assurance, « s'il vous plaît, capitaine, de m'accepter comme champion du sexe faible, je suis à votre disposition. La boxe anglaise n'a pas de secret pour moi. Ne poussez pas, capitaine, je sympathise à un affront sanglant. » Mais je ne puis permettre qu'on lutte à coups de poing avec une femme sous les yeux du public. Si, comme il sied à un noble personnage, vous voulez procéder d'une autre manière, eh bien, naturellement, vous devez me comprendre, capitaine. » Mais le capitaine avait déjà repris possession de lui-même et n'écoutait plus Keller. En ce moment, Rogojine sortit de la foule, saisit vivement le bras de Nastassia Philipovna et s'éloigna avec elle. Parfen Semenitch semblait fort ému, il était pâle et tremblait. Toutefois, en emmenant Nastassia Philipovna, il rit méchamment au nez de l'officier et murmura avec la mine d'un marchand qui jubile. « Tchou, qu'est-ce qu'il a attrapé? Il a la trogne en sang. Tchou !» L'officier s'était couvert le visage avec un mouchoir. Ayant recouvré son sang-froid et devinant fort bien à qui il avait affaire, il s'adressa poliment au prince qui venait de quitter son siège. « Le prince Mushkin, dont j'ai eu le plaisir de faire la connaissance ? Elle est folle, aliénée, je vous l'assure !» répondit le prince d'une voix agitée. Et par un geste machinal sans doute, il tendit à l'officier ses mains tremblantes. « Assurément, je ne puis me vanter de telles connaissances, mais j'ai besoin de savoir votre nom. » Il salua d'un signe de tête et s'éloigna. La police se montra juste 5 secondes après que les derniers acteurs de la scène précédente eurent disparu. Du reste, cette esclandre ne dura pas plus de 2 minutes. Quelques-uns des assistants se levèrent et sortirent, d'autres se bornèrent à changer de place. Il y eut même une partie du public à qui l'incident fit plaisir. Du moins, il fournit à plusieurs la matière de conversations vives et animées. En un mot, tout se termina comme à l'ordinaire. L'orchestre commença à jouer. Le prince se mit en devoir de rejoindre la famille Epanchin. Si, lorsqu'il s'était assis sur une chaise après avoir été repoussé par l'officier, il avait eu l'idée de regarder à gauche, il aurait aperçu, à 20 pas de lui, Aglaé, qui, sourde aux appels de sa mère et de ses sœurs, s'était arrêtée pour contempler la scène scandaleuse. Le prince Tchi courut à elle et la décida enfin à quitter la place. Quand la jeune fille revint auprès des siens, Elisabeth Prokofievna, en voyant son agitation, présuma qu'elle n'avait pas même entendu qu'on criait après elle. Mais 2 minutes plus tard, au moment où on entrait dans le parc, Aglaé dit, du ton indifférent et capricieux qui lui était habituel, « Je voulais voir comment finirait la comédie. »